Matin Montréal, bienvenue sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute d'À l'horizon pour deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux. Et donc, ce matin, on va se diriger au Salvador, en Amérique centrale. Alors, la semaine dernière, j'avais discuté des élections qui s'étaient données en Indonésie. J'avais été faire un petit tour en Asie du Sud-Est, parler d'un pays qui a quand même un passé mouvementé, avec des tentatives de réforme et de démocratie dans les 20 dernières années. Puis, voir... comment ça se déroulait par rapport à ce contexte-là, ces élections qui ont eu lieu récemment. Et ça va être un petit peu le même principe, cette émission-ci, avec le Salvador, qui a aussi un passé plutôt mouvementé, c'est ce qu'on va constater bientôt, et aussi, avec une tentative de transition. Et des questionnements par rapport à l'état de sa démocratie avec les élections qui ont eu lieu récemment. Alors, on va tout remettre ça en contexte et parcourir quand même une histoire peut-être, encore une fois, pas tellement connue, mais super intéressante. Alors, voilà le programme pour ce matin jusqu'à 9h. Vous êtes à l'écoute d'À l'horizon. On se lance là-dedans après la pause musicale.
Et là, tous les
Alors, vous êtes à l'écoute d'À l'horizon et, comme je le disais en ouverture d'émission, ce matin, on se dirige en Amérique centrale, quand même une région que je couvre assez rarement. Maintenant, on va se diriger au Salvador. Et donc, quand même pas un énorme pays, pas disons le pays le plus significatif dans la région, on peut dire ça comme ça. Même un petit pays en termes de population, hein, 6,5 millions. Alors, peut-être que bon, on peut s'y reconnaître. Le Québec n'est pas aussi un gros État. Mais bon, bref, El Salvador qui est quand même a une histoire assez mouvementée, dis-je, comme je le mentionnais. C'est ça pour bien saisir toute la portée de ce qui se passe politiquement au Salvador en ce moment, parce que voilà, il y a eu des élections générales le 4 février, il va en avoir des élections locales aussi en mars. Je dis général, c'est législative et présidentielle. Pour ceux qui sont au courant, vous avez peut-être déjà entendu parler de Nayib Bukele, quand même ce populiste plutôt controversé, hein, donc des gens qui l'adorent, des gens qui l'adorent pas, disons ça comme ça. Il a été quand même propulsé dans les headlines internationaux, là, notamment par rapport à son à l'adoption sous son gouvernement par le Salvador du Bitcoin, hein, les cryptocurrencies comme une devise légale au Salvador. La mesure controversée s'est peut-être avérée un petit peu moins profitable que prévu, là, hein, étant donné les déboires des crypto-monnaies dans les dernières années. Tout cet enjeu-là sur le Bitcoin que le monde aime beaucoup discuter par rapport à Bukele et le Salvador, c'est quelque chose que je vais pas toucher. Malheureusement, j'aurai pas le temps parce qu'il y a tellement d'autres choses à discuter. Justement, il y a ce contexte historique que j'aime beaucoup ramener pour, encore une fois, approfondir la compréhension du contexte politique du pays. Pour la petite histoire, hein, au sortir du 19e siècle, au Salvador, il y avait un système efficace de plantation de café qui avait été mis en place, au détriment des terres autochtones, faut le dire. Et les planteurs avaient formé, ça c'est quand même assez important, une élite de propriétaires terriens très soudés, qui a utilisé sa puissance économique croissante pour s'assurer que le gouvernement servait ses intérêts. Et quand on parle de ça, c'est vraiment le contrôle direct du gouvernement, contrôle direct de la politique du pays par les barons du café, qui a pris fin, par contre, dans le cadre de la Grande Dépression, hein, quand même, qui a généré beaucoup d'instabilité. Et il y a eu un coup d'État qui a installé le général Hernández Martínez à la présidence en 1931, ce qui a initié là une succession de gouvernements militaires qui ont contrôlé le pays jusqu'en 1979. Alors, c'est toujours important de comprendre, hein, que dans certains pays, il y a eu ces longues juntes militaires, des dictatures pendant plusieurs décennies au 20e siècle. La dictature militaire et son appareil répressif qui se mettait en place par des coups d'État, des trucages électoraux, servaient en tout cas les intérêts des élites qui monopolisaient pratiquement les terres arables contre de potentielles protestations indigénistes, communistes ou simplement populaire dans le cadre de ces inégalités. Puis bon, le Salvador des années 70 a été marqué par une croissance des violations des droits humains par le gouvernement, notamment en réponse à une croissance des expressions publiques de mécontentement face aux inégalités, allant de mouvements syndicaux pacifiques à la prolifération de guérillas clandestines en lutte contre la dictature et d'autres organisations paramilitaires mises sur pied par les élites rurales, ce qui incluait en fait des escadrons de la mort, des death squads visant les activistes et les étudiants proches de la gauche, ainsi que le clergé catholique qui défendait, qui prenait la parole souvent pour défendre les civils victimes de ces paramilitaires de droite et escadrons de la mort. Il faut comprendre que le tout, c'était en contexte aussi de guerre froide, hein, les Américains qui prenaient le parti du gouvernement notamment en le fournissant là, en arbres et en assistance financière. Puis la situation s'est progressivement détériorée dans les années 70 et tout juste après le renversement de la dictature au Nicaragua voisin par les révolutionnaires sandinistes en 1979. Au Salvador, des militaires ont mené un coup d'État pour remplacer l'administration en place par un gouvernement renforcé, jugé capable de prévenir par la répression une insurrection. Donc, autrement dit, ils ont vu ce qui se passait au Nicaragua. Ils ont dit, pas ici. Donc, là, un coup d'État pour renforcer le gouvernement et empêcher une prise de... carrément une insurrection communiste et une prise de pouvoir par la suite. Mais c'était quand même pas seulement une tentative de renforcer le gouvernement par la répression, c'était aussi en se présentant comme réformateur, ce nouveau gouvernement-là qui incluait des militaires et des civils et mettait fin à cette série de juntes militaires qui avait commencé en 1931 et donc cette fin qui arrive en 1979 et la nouvelle junte visait des réformes, par exemple des réformes agraires et la nationalisation d'industries importantes, ce qui incluait le café. Ce qu'il y a eu pour contre-coup, par contre, ces tentatives de réforme, contre-coup de braquer les élites, qui ont répondu par une campagne de sabotage et d'assassinat, et qui ont éventuellement réussi à ralentir ou du moins orienter les réformes en leur faveur. Bon, en tout cas, la junte instable dans un contexte d'effondrement économique a, sous l'influence de l'armée et par la répression brutale de toute dissidence, participé à une escalade de la violence qui a dégénéré en guerre civile, durant laquelle une stratégie de terreur de l'armée visait à éliminer la base de soutien civil des insurgés de gauche qui s'étaient réunis au sein du Marabundo Martí de Libération Nationale, le FMLN. Donc, avec un soutien accru de l'administration Reagan, qui, en plus de fournir des armes, du personnel, de l'assistance financière, a participé à dissimuler les crimes de la junte et des présidences civiles qui l'ont suivi à partir de 82. L'État salvadorien et ses alliés, donc par exemple les paramilitaires de droite, ont libéralement attaqué les civils soupçonnés même de simples sympathies pour l'insurrection du FMLN, incluant des massacres de civils par centaines, des viols de groupe, des bombardements de zones résidentielles et l'usage d'escadrons de la mort militaire. Et donc là, c'est pas seulement paramilitaire, mais carrément au sein même des forces armées qui terrorisaient la population en disposant, par exemple, publiquement des corps mutilés de leurs victimes. Alors, vraiment, stratégie de terreur. Sans surprise, bien que les insurgés aient aussi utilisé des tactiques de terreur, donc les forces de l'État ont été responsables de la vaste majorité de la violence contre les civils durant la guerre civile, en particulier au cours des premières années de la guerre qui s'est poursuivie, faut le dire, toutes les années 80, en fait, là, avec une intensité en violence quelque peu amoindrie à partir du début des négociations avec les insurgés en 1984. Le conflit tout de même restait brutal et le terrorisme de l'État et ses alliés s'est poursuivi jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de paix médié par les Nations Unies en 1992, après que le gouvernement salvadorien eut au final réalisé que l'usage de la force ne s'était pas avéré efficace contre le FMLN, qui avait même réussi à pénétrer la capitale brièvement en 1989. Donc, ce conflit qui a fait plus de 90 000 victimes, dont plus des deux tiers des civils, il faut le dire, est aussi essoufflé dans la foulée de la fin de la guerre froide, parce que cette guerre civile s'inscrivait directement dans la guerre froide. L'accord de paix prévoyait une réduction importante des forces armées, la dissolution des unités de guérilla et la création d'une nouvelle force de police civile responsable de la sécurité publique, donc la police nationale civile. Mais la quantité significative d'armes, notamment américaines, toujours en circulation après la guerre, on parle de, c'est des dizaines de milliers, là, ça a contribué à une hausse importante de la criminalité. Donc ça, je vais y revenir, incluant avec la poursuite ça s'est pas arrêté, ça, le terrorisme des paramilitaires de droite pendant les années 90. Le FMLN, pendant ce temps-là, lui, s'est converti en parti politique à l'issue de l'accord de paix et s'est constitué en principale force d'opposition à l'Alliance républicaine nationaliste, l'ARENA, qui avait été formée tôt pendant la guerre comme faction radicale critique de la junte réformiste. Ça a été formé par un ex-commandant néo-fasciste d'escadron de la mort militaire qu'elle avait démis de ses fonctions. Hein. Donc, la junte réformiste avait démis de ses fonctions, ce sympathique personnage. Il s'agit de Roberto Daubuisson, qui avait notamment commandé, donc à l'époque, là, l'assassinat de l'archevêque de la capitale en pleine messe en 1980 pour ses appels à cesser la répression. Oui, voilà, c'est sympathique personnage, puis ben, qui est fondateur de l'ARENA. Après avoir été gardé en minorité dans le cadre des processus électoraux truqués avec l'implication des services de renseignement américains durant la majeure partie du conflit, ben, ce parti, l'ARENA, a ensuite réussi à s'imposer dans la législature à partir de 1988, vers la fin du conflit, et à la présidence à partir de 1989. Mais là, c'était pas Daubuisson, là, ce fondateur néo-fasciste du parti qui a pris la présidence en 89. Il avait été défait lors d'une élection en 84. Puis bon, il s'était mis de côté. Puis bon, c'est Alfredo Cristiani qui a donc pris la présidence en 1989 pour l'ARENA et qui a négocié en fait la fin du conflit. Et ben voilà, par la suite, le FMLN s'est, comme je le disais, constitué en opposition à l'ARENA. L'ARENA s'est par la suite maintenu au pouvoir, en fait, tout au long des années 90 et 2000, pendant que le FMLN était dans l'opposition, même une opposition politique et plus insurrectionnelle. Puis, ben, l'ARENA a mis en œuvre des politiques d'ajustement structurel, de privatisation et de libre-échange, le tout aligné sur les États-Unis pour développer l'économie. Puis, ben, en fait, il y a carrément le dollar américain qui a été adopté comme devise en 2001. Aussi, ben, en fait, par rapport à ces politiques-là, ben, dès 1996, il faut dire que l'inflation est retombée sous la barre des 10% pour la première fois depuis 1976. Alors, donc, première fois en 20 ans. Le tout, cela dit, par contre, sans améliorer les indicateurs de démocratie du pays, au-delà des modestes gains qui avaient suivi la fin du conflit. Donc, la réforme agraire aussi, que j'avais mentionné un petit peu plus tôt, avait toujours pas abouti au début du siècle, donc au début des années 2000, et les conditions de vie post-conflit difficiles, l'impact des politiques de redressement néolibéral et la corruption continue des institutions ont contribué à maintenir la pauvreté omniprésente au Salvador. Pauvreté qui elle-même contribuait à la montée de la criminalité et de la violence dans le pays. Par exemple, le taux d'homicide au Salvador a doublé entre 2002 et 2006. C'est notamment dû, évidemment, à la montée en puissance du crime organisé en Amérique centrale, qui, un peu comme les armes que ce crime organisé utilise, c'est un produit provenant des États-Unis. Donc, les gangs comme Mara Salvatrucha, les MS-13, se sont développés au sein des communautés qui s'étaient réfugiées aux États-Unis pendant la guerre civile, notamment de manière à faire face aux puissants gangs mexicains bien établis dans les rues et aussi dans le système carcéral américain. La brutale rivalité entre groupes du crime organisé recrutant dans les communautés hispaniques marginalisées, en particulier les sans-papiers, ça a été exporté en Amérique centrale à coup de déportation. Suivant des modifications apportées aux lois américaines sur l'immigration durant les années 90, qui ont permis l'expulsion de criminels reconnus coupables. Il y a ce phénomène qui s'est développé chez des immigrants aux États-Unis, des Salvadoriens, mais aussi d'autres nationalités d'Amérique centrale qui, pour se protéger des gangs mexicains bien établis, développaient leur propre gang, leur rivalité, avec les déportations, ça s'est exporté en Amérique centrale, dans leur pays d'origine, ce qui a empiré la criminalité dans les pays comme le Salvador, mais aussi, étant donné ces déportations, ça a facilité la constitution de réseaux criminels transnationaux. Parce que là, on se retrouvait avec des groupes criminalisés qui avaient des contacts à la fois aux États-Unis, au Salvador et bien sûr dans d'autres pays. Le tout générant, un cercle vicieux de violence, pauvreté, migration, déportation, qui a fait que s'amplifier là, avec le temps, avec des conséquences qu'on peut mesurer encore aujourd'hui, incluant, soit dit en passant, les vagues migratoires aux États-Unis. Alors bref, non seulement les gangs d'origine américaine ont réussi à profiter d'un environnement criminel d'abord désorganisé et d'une pauvreté chronique pour s'implanter au Salvador et faire le plein de jeunes recrues. Ils ont aussi pu compter sur les liens de certains de leurs membres avec d'ex-paramilitaires salvadoriens puissants. Hein? Donc, ça c'est intéressant, un épisode notable de violence impliquant des élites. En 2007, trois députés de l'ARENA au Parlement centre-américain, incluant un fils de Roberto d'Aubuisson, ont été assassinés au Guatemala par quatre policiers qui ont eux-mêmes été assassinés en détention quelques jours plus tard. Et des officiels enquêtant sur l'affaire ont aussi subi le même sort par la suite. Or, la voiture des députés salvadoriens, dont un fils de Roberto d'Aubuisson, contenait 20 kg de cocaïne et 5 millions de dollars en argent comptant. Et bien que l'affaire n'a jamais été résolue, les enquêteurs ont évidemment évoqué un lien potentiel avec le narcotrafic. C'est effectivement, voilà, un épisode assez notable. Puis en général, le problème du narcotrafic devenait grave au point que des mesures sévères de répression ont commencé à être adoptées là, durant la décennie des années 2000, incluant des condamnations de membres de gangs de moins de 12 ans. Là. Ça, c'était dans le cadre de la politique nommée Super Mano Dura, donc littéralement la main très dure, qui renforçait en fait une politique précédente, la Mano Dura, lancée en 2003, donc politique en vertu desquelles l'armée assistait la police dans ses patrouilles et ses raids dans les territoires des gangs. Les arrestations étaient facilitées et les peines alourdies pour les coupables. Et ben, en fait, le résultat, ça aurait été des vagues d'arrestations arbitraires et le début d'une forte surpopulation en prison où les membres des gangs sont devenus majoritaires, ce qui leur a permis de prendre le contrôle des prisons en question et de s'en servir même comme QG, comme quartier général, plus sécuritaire même que pour opérer, comparé à être dans la rue. Et donc, contrairement au discours officiel de réussite de la Mano Dura, cette politique va avoir échoué dans son objectif parce que le taux d'homicide au Salvador a continué à augmenter pendant que la politique était en mise en œuvre. Et c'est ça, les gangs se sont adaptés au climat de répression en étant notamment plus sélectifs hein, par rapport à leur recrutement et en s'armant aussi plus lourdement. Et donc, malgré l'augmentation de la criminalité, les scandales de corruption et une croissance anémique durant la première moitié des années 2000. L'ARENA était jusque-là arrivé à se maintenir au pouvoir hein, depuis la fin de la guerre civile, depuis 1989 en fait, et se maintenir au pouvoir à la présidence, dis-je. Présidence qui, on peut le mentionner, c'est le poste de président combine... Le fait d'être chef d'État et chef de gouvernement. Donc, bref, à la tête du cabinet. C'est ça, c'était face au FMLN, dans l'opposition, à gauche, dont le soutien, par contre, avançait progressivement, surtout dans la législature. Le FMLN qui a réussi à dépasser l'ARENA de quelques sièges à partir de l'an 2000, quand même. Donc, mais reste que l'ARENA pouvait gouverner avec le soutien des conservateurs du Parti de la Concertation nationale, qui était le parti de la junte militaire au pouvoir durant les années 60-70 jusqu'au coup de 79. Il y a aussi le Parti démocrate chrétien, qui était dans l'opposition à cette époque-là et qui a ensuite dirigé le pays pour l'essentiel des années 80 pendant la guerre civile. Il soutenait aussi l'ARENA. Alors, c'est cette belle coalition permettait à la présidence de l'ARENA d'avoir, bref, un soutien majoritaire dans la législature. Puis, les succès de l'ARENA lors des scrutins présidentiels étaient tout de même moins ambigus que dans la législature où le FMLN se distinguait un petit peu mieux. On peut mentionner là les différents scrutins présidentiels là, pour l'ARENA. C'était 54% la victoire en 89, 68% en 94 après la fin du conflit, 52% en 99, 58% en 2004. Alors voilà, assez difficile pour les candidats du FMLN dans l'opposition. Puis ben en fait, en ce qui concerne 2004, cette élection se distinguait quand même. Le taux de participation de 67% dépassait quand même de beaucoup le 55% de taux de participation pour la première fois depuis la fin de la guerre. Et le candidat du FMLN à cette époque-là, en 2004, semblait avoir une réelle chance de l'emporter. Mais bon, il a dû se contenter de 35% des voix. Mieux que les scrutins précédents, mais assez loin d'une victoire pour rendre peu effectives là, les accusations d'interférence portées contre les Américains, là. Les Américains qui avaient averti lors de ce scrutin qu'une victoire du FMLN pourrait avoir des conséquences négatives sur les relations bilatérales, ce qui aurait pu inclure un blocage de l'envoi d'argent de migrants salvadoriens vers leurs familles restées au pays, ce qui est quand même une source importante de revenus là pour les familles salvadoriennes. Et bon, le gouvernement, les gouvernements de l'ARENA ont en tout cas toujours été proches des Américains, incluant celui du gouvernement de l'ARENA, là, celui d'Antonio Saca, qui a intégré le Salvador à l'accord de libre-échange d'Amérique centrale qui liait les pays de la région avec les États-Unis en 2006. Et il a aussi maintenu des troupes salvadoriennes en Irak jusqu'en 2009. On peut mentionner que Saca va plus tard là être devenir le premier chef d'État ex-chef d'État salvadorien à être condamné à de la prison pour corruption. On parle d'une entre autres une peine de 10 ans d'emprisonnement pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Mais entre-temps là la fin du mandat de Saca a été marquée par la crise financière de 2007-2008, hein, donc l'économie du Salvador qui s'est contractée de 2,1% en 2009. Bon, ça aurait pu être pire. Aux États-Unis, c'était 2,6% de contraction. Au Canada, c'était 2,9%. Mais bon, tout de même, hein. Il s'agissait, d'une année électorale 2009, ce qui a ouvert la voie au candidat du FMLN, Mauricio Funes, qui a gagné son pari cette fois-là avec 51,3% des voix. Et donc, c'était une première victoire présidentielle pour le FMLN. Et en fait, on peut mentionner que l'ARENA et les États-Unis ont accepté cette victoire du FMLN, disant qu'il allait travailler, d'aller collaborer avec ce gouvernement-là. Et on peut aussi mentionner que Funes, qui venait de donner cette première victoire présidentielle au FMLN, c'était le premier candidat du parti à ne pas être un ancien guerriero et rejetait même le qualificatif de socialiste. Puis, comme Saca, son prédécesseur, Funes était une populaire personnalité médiatique. Durant la guerre, il y avait eu des leaders du FMLN en entrevue et il s'était par la suite distingué comme critique des gouvernements de l'ARENA, ce qui lui avait valu d'être la cible de censure et de menaces. Il se retrouvait à partir de 2009 comme président au Salvador. Alors, quand même, hein, un premier président pour le FMLN à gauche. Et on va voir comment ça s'est passé après la pause musicale qui suit. Et on poursuit notre exploration de ce contexte politique du Salvador sur les ondes de CISM.
It was all a dream. I used to read Central Magazine. Julie Snyder et Pink up, up in the limousine. Là, tu me vois la face dans ton TV screen. Là, tu vois mon ass dans mes skinny jeans. Champagne sur la glace. Raised on glass pour le real sur la map. Rough sun est dans le bac. Irrécupérable dans le crowd. Avec un butterfly knife dans sa barbe. Corey Hart's d'une légende comme Dilla sur le bap. Il pull le trigger sur le kick. The finish sur le clap. Les drums te font twist comme un dude sur le smack. Check les virées sur le top when I kill him sur le track. Si je suis le best, better, yeah, je deviens meilleur. S'il y a pas 5 chiffres sur le chèque, c'est une erreur. Tuer tous les fuckboys, yeah, je fais ça pronto. Avant du front, là, t'es rendu front row. Ah.
j'étais un écolier qui est jamais devenu un collégien. T'avais les notes de bolé, mais pourquoi t'es pas médecin? Parce que ma job à temps plein, c'est de rock des scènes. Jamais je pourrais dire une minute que ma job est lame. J'ai des idées qui sont pognées dans mon fucking brain. Des fois, les trouver, c'est comme une énigme dans une botte de foin. Murder, murder, kill, kill, avec les hommes de main. Ça va finir, mais j'ai comme le feeling que c'est pas demain. Avant, c'était le linge, volé sur la corde à linge. Là, c'est rendu les fringues, donné pas, je les portais bien. We started from the bottom, là, c'est bottles on the plane. On est passé de charlie comme des femmes à parler comme des princes. On va décoller tant que la collection d'alcool est pleine. Tu penses que t'as des bons chums, tu connais pas les miens. Le monde est dans ma main, glory on the brains. Run the game, juste pour voir le nom Corey dans le Hall of Fame.
Tu veux ta main dans mes cheveux, c'est problématique, mais tiens, joue avec mon élastique. Un bisou sur la joue, en ami je l'ajoute. Facebook c'est pas mythique, mais c'est vrai que c'est pratique. Fais pas de compliments, j'ai très bien quand tu mens. Je vise dans les yeux et tire comme à ma feu. Un collage abîmé, décollage imminent. On danse sur aminé, il tiendra pas longtemps. L'amour pris en otage. T'es pas un garçon sage, le vois dans ton regard hautain. L'argent va bien autant. Je pensais pas faire autant. Je veux tes câlins dès le matin. Dis-moi ce que t'attends. Je sais pas d'où vient l'envie. Il veut m'éprendre la vie. Il m'a foutu l'enfant, mais il fait tout à l'enfer. L'entrée était super, mais rajoute l'eau dans ton vin. Qu'en est-il du dessert? Tu captes le dessin.
Retour sur les ondes de CISM avec À l'horizon. On est toujours au Salvador et donc hein, après cette guerre civile liée à la concentration du pouvoir dans les mains de d'élites postcoloniales, après cette guerre civile-là, les acteurs, disons, se sont régularisés. La lutte est devenue politique dans les années 90, mais la gauche est restée dans l'opposition jusqu'en 2009, lorsque Mauricio Funes a remporté pour le FMLN une première présidence. Et donc... voilà, à l'époque, Funes, comme président, a accéléré le processus de réconciliation nationale qui avait été amorcé sous ses rivaux de l'Arena, mais sans que ça se fasse de manière tout à fait acceptable, disons. Et Funes a demandé l'ouverture d'enquête et l'arrestation du personnel militaire soupçonné d'avoir commis des crimes contre les civils pendant la guerre civile des années 80. Il a aussi tenté des réformes pour améliorer la couverture des services sociaux de base du pays, tout en gardant de bonnes relations avec les milieux d'affaires et les Américains. Il faut dire que la minorité du FMLN, quand même, au Parlement, forçait Funes à gouverner en modéré. La violence liée au crime organisé, hein, j'ai parlé de la montée de ce crime organisé-là pendant les années 90-2000. Et donc, ça devenait là un enjeu de plus en plus incontournable, de quelque chose comme 10 000 à 20 000, 30 000 membres environ. C'est difficile à compter, là, mais en 2004, les gangs en comptaient environ le double, là, 60 000 en 2012, selon le gouvernement. Funès a mis fin au raid massif dans les zones contrôlées par les gangs, hein, dans cette politique de la mano dura, et a intégré la prévention et la réhabilitation à la stratégie du gouvernement, avec une stratégie de mano amiga, hein, main amie. Mais il a largement quand même laissé en place les politiques de mano dura, hein, la main dure, et fait progresser la militarisation de la police. Aussi, en 2010, la législature a adopté une loi anti-gang qui criminalisait l'appartenance à un gang. Hein, le simple fait d'être membre, c'était criminalisé. Et c'est une loi qui a aussi permis la saisie des actifs des membres de gangs. Le tout sans toutefois réussir à ralentir la violence endémique au Salvador. Plus significatif et controversé, dans ce contexte, le gouvernement Funès s'est secrètement impliqué dans des négociations médiées par l'Église catholique entre les deux principaux groupes criminalisés du pays. Hein? Mara Salvatrucha, donc MS-13, et Barrio 18, 18th Street Gang, qui a mené, hein, ces négociations qui ont mené à une trêve tôt en 2012. Et donc, c'est entre ces deux gangs. Et ça, c'était en échange de meilleures conditions d'emprisonnement pour une trentaine de leaders de ces gangs et des concessions, notamment sur l'usage de téléphones mobiles en prison. Le gouvernement, bon, généralement, a nié tout traitement de faveur pour les leaders en question, et même nié qu'il y avait des négociations avec les gangs. Mais le gouvernement a éventuellement admis son implication directe dans les négociations plutôt que simplement soutenir une initiative de l'Église. Et en fait, l'idée, ben, c'est qu'il voulait quand même prendre le crédit d'une baisse significative du taux d'homicide qui était lié à la trêve. Et donc, cette trêve et les négociations qui se sont poursuivies, portant notamment sur la loi anti-gang que les gangs voulaient se débarrasser, aussi portait sur des opportunités d'intégration au marché du travail et aussi l'établissement en particulier de zones de paix où toute activité criminelle cessait, les gangs rendaient leurs armes et l'armée se retirait. Donc, c'était assez prometteur, mais le manque de financement pour la prévention, donc ces questions d'intégration au marché, etc., aussi la rivalité avec d'autres gangs non impliqués dans les négociations et les difficultés au sein des Mara Salvatrucha et de Barrio 18 à contrôler des parties de leur propre membership, tout ça a contribué à l'effritement de la trêve progressivement en 2013. Donc là, les taux d'homicide ont augmenté progressivement tout au long de l'année, jusqu'à ce que Funès admette en dernier que la trêve a échoué. Il a admis ça, c'était seulement quelques jours avant la fin de son mandat en mai 2014. Donc, son vice-président, Salvador Sanchez Seren, s'était déjà auparavant distancié de la trêve, qui était ultimement impopulaire, inefficace, et ayant potentiellement même servi aux gangs à renforcer leur armement et leur pénétration de l'économie légale. L'enjeu de la trêve, en tout cas, a été débattu durant la campagne pour la présidentielle, tenue en deux tours en février et mars 2014. Seren a réussi à garder le FMLN au pouvoir avec une courte victoire de 50,11% des voix, c'est-à-dire une avance de seulement environ 6300 votes, là. Donc, puis ça, c'est sur un électorat de près de 3 millions, hein, quand même. Donc, très courte victoire, mais tout de même, Seren, qui était le vice-président de Funès, qui a remporté l'élection pour le FMLN. On peut d'ailleurs noter que les gangs ont été sollicités pour leur appui électoral tant par le FMLN que par l'ARENA. Puis en fait, même le candidat de l'ARENA de l'époque, c'était en fait le maire de la capitale, El Salvador, il fait aujourd'hui face à un procès pour son implication directe dans ses négociations avec les gangs pour obtenir leur appui électoral en échange d'argent et de concessions. Il y a eu des charges de fraude électorale. Mais bon, bref, plusieurs gangs ont après l'élection de Seren en 2014, plusieurs gangs ont offert une nouvelle trêve, en fait même quelques mois après l'élection. Et même, il y a eu une autre offre de trêve l'année suivante, en 2015. Mais à ces deux occasions, le gouvernement Seren a refusé de rouvrir les négociations. Et ben la même année, en 2015, la Cour suprême a jugé que les gangs, en fait, sont des organisations terroristes. Puis ben après avoir rebondi au niveau pré-trêve, la quantité d'homicides a ensuite bondi à plus de 6600 victimes en 2015, un niveau le plus élevé depuis 1983 pendant la guerre civile. Donc, une étude officielle mesurant l'impact économique de la violence des gangs de 2016 indiquait par ailleurs un coût de 4 milliards de dollars pour l'économie salvadorienne. Tandis que la même année, le média El Faro et le New York Times ont publié une enquête conjointe basée en partie sur des écoutes téléphoniques de chefs de gang qui a révélé que le revenu annuel des seulement celui des Mara Salvatrucha, alimenté principalement par l'extorsion, s'élevait à plus de 31 millions de dollars. Donc, bon, la guerre contre les gangs n'était pas proche d'être gagnée. Ça s'empirait encore et encore. Les participants à la trêve ont par ailleurs, de cette trêve là qui avait été négociée sous Funès, donc pendant le mandat de Seren, ils ont fait l'objet de poursuites criminelles pour association illicite avec des gangs. L'un des négociateurs de la trêve et ex-législateur, Raoul Mihango, a été arrêté en 2016 avec 18 collaborateurs, notamment membres du leadership du système carcéral, mais ils ont été acquittés en 2017, vu qu'ils ont été considérés comme obéissants à la politique du gouvernement Funès. Quoique, bon, Mihango, faut le mentionner, a été condamné à 13 ans de prison pour une affaire distincte d'extorsion en collaboration avec les gangs. Bon, le ministre de la sécurité publique pendant la trêve, David Minguia, a été arrêté en 2020 puis condamné à 18 ans de prison en 2023 pour 3 accusations liées à la trêve, tandis que Funès lui-même a en même temps été condamné à 14 ans de prison en 2023 pour 2 des mêmes accusations. Quoique, contrairement à Munguia, Funès s'était exilé au Nicaragua dès 2016, alors qu'il était visé par une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable de détournement de fonds. Alors, bon, mentionnons par ailleurs que les procès contre Minguia et Funès ont lieu après le départ de Seren en 2019, étant donné la limite d'un seul mandat présidentiel. Donc, les mandats d'arrêt avaient été lancés en 2020. Le retour à la politique de Mano Dura sous Seren a contribué à faire diminuer quand même le taux d'homicide. Il est passé de 103 homicides par 100 000 habitants en 2015 à 51 en 2018, donc diminué de moitié. Mais il demeurait quand même le plus élevé sur la planète. Et la fatigue du pouvoir s'est fait sentir là avec toutes les controverses entourant justement le FMLN, ses anciens donc officiels, ministres, président. Puis bon, bref, le FMLN qui a perdu 13 sièges au Parlement en 2018. Il a obtenu le FMLN 18 sièges, tandis que l'ARENA en a récolté 35. Alors, habituellement, les élections étaient toujours beaucoup plus proches que ça, là. Et en fait, en troisième position se retrouvait la Grande Alliance pour l'Unité nationale, la GANA, avec 10 sièges. GANA qui avait été fondée en 2010, surtout par des membres de l'ARENA qui avaient fait défection. Alors, bon, bref, deux partis de droite, là, un avec 35 sièges, 10 pour le GANA, et ben là-dedans, le FMLN qui se retrouve avec seulement 18, ça regardait plutôt mal. Puis ben c'est ça, ça augurait surtout pas très bien pour le FMLN pour la présidentielle de 2019. Et de fait, le FMLN, lors de la présidentielle de 2019, a seulement récolté 14% des voix. C'était derrière l'ARENA à 32% des voix, et le GANA qui a gagné avec son candidat qui a obtenu 53% des votes. Ce qui fait qu'il est bon, ça l'a fait passer devant les deux rivaux historiques, hein? Donc le FMLN et l'ARENA, les deux rivaux historiques depuis la fin de la guerre civile. Alors c'est cette page tournée. Et ben en fait, le candidat en question, c'était l'entrepreneur Nayib Bukele. Donc, fils d'un homme d'affaires et imam musulman, lui-même issu d'une famille palestinienne chrétienne. Puis, ben, sans en être formellement membre, Ben on peut mentionner que Bukele a, pendant 12 ans, offert des services de publicité au FMLN. Et en fait, il est sorti de l'obscurité en 2012 pour représenter le FMLN en remportant la mairie de Nuevo Cuscatlán, petite ville de 10 000 habitants proche de la capitale, où le taux d'homicide a significativement chuté pendant son mandat, ce qui a contribué à l'image qu'il cultivait soigneusement sur les réseaux sociaux. Et qu'il a continué à cultiver. Sa nouvelle popularité lui a permis, en 2015, de remporter la mairie de la capitale El Salvador, poste largement vu comme tremplin pour la présidence, où il s'est distingué avec des travaux d'infrastructure et de formalisation du commerce de rue. Il avait déjà, à l'époque, commencé... faut le dire, par contre, là, à se distancier du FMLN en critiquant le gouvernement Funes pour son manque de progrès en matière de réformes socio-économiques. Et ben cette prise de distance et les critiques envers le FMLN et ben, en fait le gouvernement de Seren se sont empirées pendant son mandat comme maire de El Salvador à partir de 2015, au point qu'en 2017, le FMLN a décidé de rompre ses liens avec Bukele, accusé de fomenter la division carrément dans le parti, salir l'image du leadership, incluant le président Seren, et il a même été accusé de, par le parti de violence physique et verbale contre une conseillère municipale. Alors bon, Bukele étant rejeté par le FMLN, il a fondé son propre parti, le parti Nuevas Ideas, Idées Nouvelles, qui, par contre, n'a pas eu le temps de s'enregistrer pour participer aux législatives de 2018 et à la présidentielle de 2019. En fait, il y a eu des accusations d'interférence par les autorités électorales. Mais bon, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, Bukele s'est présenté pour le Ghana en 2019, bien qu'il pendant toute la campagne de 2019, en fait, il portait les couleurs de son parti Nuevas Ideas et a mis de l'avant son idéologie au lieu des idées de centre-droite du Ghana. Et donc, ben, c'est quoi cette idéologie de Nuevas Ideas, de Bukele? C'est ben, un populisme réformateur et rhétoriquement anticorruption. Et donc, il rejette les qualificatifs de gauche et de droite. Quoique, bon, il faut dire que c'est surtout la droite salvadorienne et la droite à l'international qui a apprécié sa manière de gouverner. Certains analystes évoquent même le développement là, d'un culte de la personnalité de Bukele à travers l'usage d'une propagande extensive sur les réseaux sociaux. Donc, c'est même sur Twitter que Bukele faisait l'annonce de ses politiques et nominations. Donc, tout ça l'a quand même amené à avoir des comparaisons avec Donald Trump, bien sûr, là, aux États-Unis, pour son populisme, mais aussi son usage assez extensif des réseaux sociaux, incluant Twitter. Et donc, bon, puis aussi, ben voilà, ça donne une idée là, du genre de clientèle idéologique que ça peut amener, surtout de la droite. Puis, ben aussi, les controverses concernant le mandat de Bukele, il n'y en a pas manqué. En fait, je vais passer une bonne partie du reste de l'émission à en parler, là, parce que, ben voilà, il y en a beaucoup. Bukele, qui a été inauguré en juin 2019, il a lancé seulement quelques semaines plus tard son Proyecto Control Territorial, projet de contrôle territorial, donc nouvelle politique anti-gang dont la mise en œuvre devait se faire en plusieurs phases et coûter 575 millions de dollars. Donc la première phase impliquait un état d'urgence, donc un lockdown temporaire dans le système carcéral, et une présence policière et militaire accrue dans les zones victimes d'extorsion, ce qui a été suivi d'une phase de prévention via le développement des services de base, en particulier l'éducation. Puis bon, la troisième phase visait à moderniser l'armement et l'équipement des forces de répression. Mais là, la législature, qui au début de son mandat était toujours contrôlée par l'ARENA et le FMLN, ben, cette législature a refusé d'approuver un prêt américain de 109 millions de dollars pour financer la phase du programme donc, dont la transparence était remise en question hein, par rapport à ces acquisitions de matériel pour la répression. Puis, ben, Bukele, comment il a répondu? Il a convoqué une séance extraordinaire de la législature en vertu de la Constitution pour faire valoir sa cause. Mais au lieu de faire valoir sa cause par des arguments, il s'est présenté dans l'enceinte de la législature en compagnie d'une quarantaine de soldats armés, tandis que des centaines de sympathisants manifestaient à l'extérieur. Le président de l'Assemblée et l'opposition ont qualifié ce coup de force carrément de tentative de coup d'État. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné comme il voulait, étant donné que seulement 22 élus sur 84 s'étaient présentés à la séance extraordinaire. Et Bukele s'était dit, avait annoncé ensuite à la foule, on va leur donner un ultimatum de une semaine et je vais reconvoquer. Et je vais leur redonner une chance d'accepter ce prêt américain pour financer son programme de plan de contrôle territorial. Mais entre-temps, la Cour suprême a interdit que Bukele convoque l'Assemblée à nouveau, étant donné ce qui s'était passé. Malgré des manifestations, cela dit, notamment étudiantes par la suite, étant donné le coup de force de Bukele, la majeure partie de l'opinion salvadorienne continuait à soutenir massivement le nouveau président dans ses façons de faire, dans son populisme, etc. Le parti Nuevas Ideas de Bukele a par la suite, par contre, largement remporté les élections législatives de février 2021. L'ARENA a perdu 23 sièges, le FMLN a perdu 19 sièges, tandis que Nuevas Ideas de Bukele a obtenu 56 sièges sur 84. Donc, à lui seul, il récoltait les deux tiers des sièges. Puis, en plus, c'était pas tout. Le Nuevas Ideas a gagné le soutien de 8 sièges supplémentaires avec le Ghana, le soutien aussi du Parti de la Concertation nationale et le soutien du Parti démocrate chrétien. On peut souligner encore une fois toutes des partis de droite. Après le vote pour investir un nouveau président de la législature le 1er mai 2021, suite à ces élections, la législature a immédiatement voté la destitution de 4 juges de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, en plus de son président de la Cour suprême, pour avoir rendu des décisions soi-disant arbitraires. Une législatrice du parti Nuevas Ideas déclarant, par exemple, que cette décision de destituer les juges était, par exemple, nécessaire pour faire plus efficacement face à la pandémie de COVID-19. Par exemple, il y a la Cour qui avait statué l'illégalité d'incarcérer les citoyens qui respectaient pas les mesures de confinement. Alors que des ONG, à l'époque, dénonçaient des arrestations arbitraires à cause de ça. Malgré leurs protestations, finalement, les 5 juges ont été remplacés par des loyalistes de Bukele, incluant un nouveau président de la Cour qui, en 2018, à l'époque, à la tête de la Chambre civile, avait décliné de traduire Bukele devant la Cour pour des allégations de ne pas avoir su justifier 550 000 $ de ses actifs. Quelqu'un que Bukele savait qu'il allait être... du moins complaisant. En juin 2021, toujours, la législature a profité de la fin du mandat de 3 autres juges de la Cour suprême et de procédures irrégulières pour au total procéder à 5 nouvelles nominations. Additionné aux 5 précédentes, ça donnait au total le contrôle direct par des loyalistes de 10 des 15 postes de juges de la Cour suprême. Alors même que selon la Constitution, une législature peut seulement procéder à 5 nominations chaque 3 ans. La législature s'est bien foutue de cette législation-là. En août 2021 toujours, la législature a accru les pouvoirs. Une fois que la Cour suprême, justement, a été remplie de loyalistes à forte majorité, la législature a accru les pouvoirs de la Cour suprême pour démettre ou transférer des juges et a aussi, en même temps, accru les pouvoirs du procureur général de aussi pouvoir démettre des procureurs de son bureau là, le bureau du procureur général au Salvador, qui est une agence indépendante du gouvernement. Or, le 1er mai, la législature avait aussi voté pour destituer Raúl Melara, le procureur général, pour le remplacer lui aussi par un loyaliste. Et c'est pas pour rien. Melara avait ouvert des enquêtes qui visaient le gouvernement Bukele. Alors voilà, ce coup de force. Ben, y avait eu le premier en 2020, avant hein, que la législature tourne à la faveur de Nueva Cideas, le parti de Bukele. Mais ensuite, là, il n'a pas perdu de temps. Quand il a obtenu sa super majorité avec les élections législatives de 2021, là, Bukele avec Nueva Cideas, le 1er mai 2021, c'est ce que l'opposition a carrément qualifié de coup d'État. La destitution de plusieurs juges de la Cour suprême, en fait du volet constitutionnel, le remplacement du procureur général qui enquêtait sur le gouvernement. Et donc, après la pause publicitaire musicale, je vais revenir sur cet épisode du renvoi du procureur général pour détailler ben, justement sur quoi il enquêtait. Le tout sur les ondes de CISM. On poursuit avec le Salvador jusqu'à 9h.
Cette émission est une rediffusion.
Plongez dans l'univers fascinant d'Elephant Stone et laissez-vous transporter. Sous la direction de Richie Dear, l'un des meilleurs sitaristes au monde, le groupe montréalais vous propose une expérience aux accents psychédéliques et pop-rock unique en son genre. Célébrez l'arrivée du printemps en force avec l'énergie contagieuse d'Elephant Stone, le 22 mars à 20h. Soyez-y. Pour en savoir plus, théâtreoutremont.ca, section spectacle. Entrez, découvrez, vibrez à l'Outremont.
Célébrer les joies de l'hiver à Côte-des-Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier des Neiges en visitant gemctn.ca.
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la découverte de nouveaux talents avec la vitrine musicale Les Silidors de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 10 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 17e édition des Silidors de la musique du monde à découvrir sur silidors.com, Facebook et Instagram.
Écoutez CISM 89.3 FM.
Cette émission est une rediffusion.
Sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute de l'Horizon. On continue au Salvador. Et comme bon, je l'avais mentionné un petit peu plus tôt, on en est à ce mandat de Nayib Bukele, hein, qu'il a remporté en 2019. Donc, Bukele, qui est un populiste qui voulait faire adopter ses politiques, notamment sécuritaires, disons, avec le plus de fermeté possible, qui est allé dans la législature, dans une législature qui ne lui était pas encore acquise, accompagné de militaires armés, là, pour les intimider. Ça n'avait pas tout à fait fonctionné, mais ensuite, là, bon, quand il y a eu les élections de 2021, son parti Nuevas Ideas s'est lâché lousse le 1er mai. De destitution de 5 juges. Ça va être suivi par d'autres remplacements de juges. Donc, 10 des 15 juges de la Cour suprême acquis des loyalistes de Bukele. Et aussi, le 1er mai, la législature 2021, la législature avait voté pour destituer Raúl Melara, le procureur général, donc un organe indépendant pour le gouvernement. Donc, pour le remplacer par un loyaliste de Bukele, encore une fois. Melara, ce procureur général, avait auparavant ouvert, quelques mois plus tôt, une série d'enquêtes contre une vingtaine d'agences gouvernementales qui avaient opéré sous le gouvernement de Nayib Bukele, incluant le ministère de la Santé, notamment pour des irrégularités dans l'octroi de contrats d'approvisionnement dans le contexte de la pandémie, bénéficiant donc des fonctionnaires et leurs proches et leurs compagnies là. À l'époque, Melara évoquait des irrégularités dans près de 67% des contrats. En général, selon l'ONG indépendante de défense des droits, Washington Office on Latin America, depuis le début de son gouvernement, Bukele n'a pas respecté la loi sur l'accès à l'information publique. Je cite, déclarant la plupart de ces informations comme réservées ou classifiées, faisant de la confidentialité de la gestion publique la règle et non l'exception, comme le prévoit la loi. L'Institut d'accès à l'information publique a cessé d'être un organe de contrôle car ses décisions reflètent un manque d'indépendance et d'impartialité. La WOLA a aussi souligné que cet Institut d'accès à l'information publique a classifié pour 7 ans le plan de contrôle territorial, ce plan en plusieurs phases, ce plan anti-gang, dont les détails ont seulement filtré, en fait, via les annonces de Bukele et son gouvernement. Donc après, voilà ce que l'opposition a qualifié de coup du 1er mai avec la destitution de juges et du procureur général qui avait lancé des enquêtes contre le gouvernement. La United States Agency for International Development, la USAID, a décidé de rediriger des fonds qui étaient destinés au Salvador, là, au système judiciaire, au bureau du procureur général, à la police nationale et à l'Agence d'accès à l'information, rediriger ces fonds vers des organisations de la société civile spécialisées en lutte à la corruption et en défense des droits humains. De telles organisations, d'ailleurs, qui avaient été visées par une nouvelle commission parlementaire enquêtant sur l'allocation de fonds publics aux ONG, ont par la suite été visées par un projet de loi sur les agents étrangers qui visait à lourdement réguler les ONG qui recevaient du financement international. Donc, genre de loi qui est adopté par beaucoup de régimes autoritaires à travers le monde. Faut dire que ce projet-là a éventuellement été abandonné vu la pression internationale, mais tout de même, les ONG, pendant le mandat de Bukele, ont fait l'objet de raids dans des rafles, là, dans le cadre d'enquêtes pour détour de... Donc, il y a eu des accusations là, contre elles pour les viser, pour les intimider, des accusations de détournement de fonds publics. Donc, en disant, bon, mais pourquoi ces fonds publics vont vers ces ONG-là, Et là, on les accuse de détournement de fonds publics pour les intimider. Et aussi, ces accusations de détournement de fonds publics ont visé assez rapidement le média El Faro, média d'investigation, qui avait rapporté des allégations de négociations entre le gouvernement Bukele et les gangs. Ce qui n'est pas sans rappeler, les négociations par rapport à la trêve sous le gouvernement Funes durant les années 2010. Melara, ce procureur général qui a été limogé le 1er mai, avait annoncé son intention d'enquêter sur ces allégations, comme quoi Nuevas Ideas, le parti de Bukele, a négocié secrètement avec Mara Salvatrucha et Barrio 18 pour diminuer le taux d'homicide. donc c'est-à-dire une trêve, et obtenir leur soutien lors des législatives de 2021. Hein, c'est législative que Nueva Cideas a largement remportée, avec une super majorité qui lui a permis de destituer le procureur général et les juges de la Cour suprême. Et donc, bref, Melara qui avait annoncé son intention d'enquêter sur ces allégations, hein, de négociations avec les gangs. Puis, ben, les concessions offertes aux gangs là, par rapport à ce soutien pour Nueva Cideas lors des législatives de 2021, ça incluait de l'argent, mais aussi des privilèges carcéraux pour les leaders là, des gangs en question, incluant l'accès à des prostituées et des cellulaires. Donc, des témoignages ont d'ailleurs fait état de pression des gangs dans des bureaux de vote en 2021. Puis bon, quoi qu'il en soit, quelques jours après le limogeage de Melara, une enquête bien documentée, ouverte en 2020 par le groupe spécial antimafia du bureau du procureur général, a été dissoute et ses membres ont été transférés ou se sont exilés par peur de représailles. Plusieurs mois après le limogeage de Melara, le département du Trésor américain a sanctionné deux membres de l'administration Bukele pour justement des négociations avec les gangs, ce qui était allégué, soit Osiris Luna, carrément le vice-ministre de la Justice et de la Sécurité publique et directeur général des pénitenciers. Et donc, les Américains ont aussi sanctionné Carlos Marroquin, chef de l'unité de reconstruction du tissu social, donc organe chargé de mettre en œuvre des programmes sociaux, éducatifs et économiques dans les quartiers marginalisés. Marroquin avait été nommé à ce poste-là, à l'unité de reconstruction du tissu national, en fait, au niveau municipal, par Bukele, donc en 2015, alors qu'il était nouveau maire de la capitale. Selon une enquête approfondie du média Inside Crime, déjà à l'époque, Bukele avait dû s'assurer de la collaboration des gangs pour arriver à ses objectifs de modernisation de la ville. Et c'était justement Marroquin qui était l'intermédiaire avec les gangs. Donc, après son arrivée à la présidence en 2019, Bukele a mis sur pied une unité de reconstruction du tissu national au niveau national. Unité de reconstruction du tissu social au niveau national. Et bon, bref, il a mis Marroquin à sa tête. Hein? Donc, bref, il l'a juste amené d'une administration à un autre, à un poste analogue. Et ben, il l'a mis en charge de la phase 2 du plan de contrôle territorial qui visait justement au développement là, d'initiatives, puis de développement des relations avec les communautés marginalisées, de programmes éducatifs, etc. Sauf que, bon, il se trouve que, donc, entre 2015 et 2019, et ensuite, pendant la présidence de Bukele, post-2019, ben, Marroquin se retrouvait dans une position d'intermédiaire avec les gangs. Alors bon, la dissolution de l'enquête sur les négociations avec les gangs se produisait d'ailleurs après l'émission en 2020, sous Bukele, donc, de mandat d'arrêt contre Funes et Munguia, hein, pour la trêve de 2012-2013. Et ça se passait aussi juste avant que la mise en détention à domicile du maire sortant de la capitale, pour des accusations qu'il a négociées avec des gangs pour obtenir leur soutien en faveur de l'Arena lors des élections de 2014. Et donc, c'est avant que ça se produise. Puis bon, il faut dire que les actions contre ce maire sortant de la capitale qui était sous enquête, c'est tombé en juin 2021, au lendemain de sa nomination contre, comme conseiller du secrétaire général de l'Organisation des États américains, qui donc cette organisation qui intègre la vaste majorité des pays du continent. Et donc, bref, le gouvernement Bukele, quand il a vu que ce maire sortant de la capitale, ce qui était sous enquête, a été nominé comme conseiller par l'OAS, ben le gouvernement Bukele s'est retiré de la Commission internationale contre l'impunité au Salvador qu'il avait mise sur pied avec l'OAS en 2019, en plus de justement de mettre en détention à domicile ce maire là, Moïse Chont. Bon, bref, tout de même, ici, on voit le genre de tactiques qui sont employées, qui ont été employées par le gouvernement Bukele, qui a négocié avec des gangs tout en s'attaquant judiciairement à des personnalités qui, dans le passé, avaient négocié avec des gangs. L'été 2021, comme on peut le voir, qui a été assez mouvementé, a aussi vu l'amorce de la quatrième phase du plan de contrôle du territoire de l'administration Bukele, qui visait à pénétrer les zones où les forces de l'État avaient du mal à patrouiller à cause de la lourde présence des gangs. Donc, que ce soit à travers ce plan ou les négociations secrètes avec les gangs, on peut dire que le taux d'homicide a poursuivi sa tendance à la baisse amorcée en 2015. Ce taux d'homicide est passé de 51 homicides par 100 000 habitants à 36 en 2019. C'est passé à 19,7 par 100 000 habitants en 2020 et à 17,6 en 2021. Alors, le pays comptait, par contre, en 2021, encore quelque chose comme 70 à 86 000 membres de gangs actifs, selon le gouvernement. Ainsi, alors que l'opinion, via les sondages, rapportait principalement se préoccuper de sécurité, très, très loin devant la corruption, à cause de ce succès au niveau des taux d'homicide, le taux d'approbation de Bukele s'est maintenu bien au-delà de 80% pendant son mandat, malgré des manifestations périodiques plus ou moins grosses de la gauche et de la droite qui étaient critiques du gouvernement. Quand même, hein, cette baisse du taux d'homicide qui avait commencé en 2015 sous le FMLN, était progressive. À chaque année, ça diminuait. Ça a atteint 36 sur 100 000 habitants en 2019, puis ensuite, ça a été réduit de moitié, rendu en 2021. Le 25 mars 2022, il y a 14 homicides qui ont eu lieu à travers le pays, puis 62 le lendemain, puis encore 11 le surlendemain, ce qui a provoqué un choc dans la population parce que justement, les taux d'homicide avaient diminué. Le mois précédent, en février, il y avait eu moins de 80 homicides dans tout le mois. Et là, en trois jours, soudainement, c'était plus de 80 homicides. Alors, c'est que des membres présumés de gangs auraient visé des gens qui magasinaient des passagers de bus et d'autres passants. Donc, semble-t-il, arbitrairement, carrément des attaques des membres contre des civils. De nombreux analystes ont alors suggéré que les attaques visaient à envoyer un message au gouvernement, donc suggérant que ce qui aurait provoqué la représaille était un effondrement de négociations entre le gouvernement et les gangs après l'arrestation de hauts gradés des Mara Salvatrucha. Selon des enregistrements audio du média d'investigation El Faro, marocaine, qui était l'intermédiaire pour le gouvernement Bukele avec les gangs, avait, dans le cadre de ces négociations, exfiltré hors du pays un des dirigeants des Salvatrucha comme gage de sa loyauté envers les gangs. Ce qui avait d'ailleurs évité à ce leader du MS-13 une extradition aux États-Unis. Alors, pas des petites négociations, mais voilà, ces négociations-là ont fini par s'effondrer et amener à cette vague de violence vers la fin du mois de mars 2022. Et donc, quoi qu'il en soit, après les massacres, la législature a alors acquiescé à la demande du président Bukele de déclarer un état d'urgence d'un mois, plusieurs fois reconduisible, et ça a été reconduit sans arrêt, c'est encore en vigueur aujourd'hui, et déclarer l'état d'urgence et d'autres mesures et réformes subséquentes, ce qui était fait là en promettant l'éradication des gangs. C'était vraiment le message là, éradication complète, c'est le message dans la publicité omniprésente du gouvernement, et le gouvernement qui a utilisé vraiment un narratif de guerre en contexte domestique, par contre, comme l'a fait remarquer Human Rights Watch. Et ce narratif de guerre qui a permis au vice-président de Bukele d'affirmer que, comme dans toute guerre, il y a des victimes innocentes. Hein? Et donc, il faut quand même mesurer l'impact de ce genre de rhétorique-là. Et on va voir, hein, justement, les mesures incluaient un confinement intégral des membres des gangs dans leurs cellules, où leur matelas avait été retiré et une réduction de leur ration à 2 repas par jour, une augmentation significative des peines carcérales. On parle carrément de 10 à 15 ans de prison pour des graffitis que les gangs utilisent pour marquer leur territoire, une suspension des droits d'association et de communication privée pour tout le monde, une suspension du droit d'être informé de ses droits et d'avoir accès à un avocat lors d'une arrestation, la permission d'arrestation sans mandat, et l'extension de 3 à 15 jours de temps la détention sans accusation. Et les détentions se faisaient sans autoriser à informer la famille du détenu, ce que beaucoup de groupes de défense des droits appellent probablement à raison des disparitions forcées. Donc, bien que l'état d'urgence n'incluait pas de restrictions à la mobilité ni la levée de l'inviolabilité constitutionnelle du domicile, des milliers de policiers et soldats dans plusieurs opérations encerclaient des quartiers et villes entières, établissant des points de contrôle qui, contrôlaient les allées et venues, faisaient des cherches... donc des perquisitions, etc. Et aussi, dans la zone, allait de porte à porte pour arrêter toute personne le moindrement soupçonnée de lien avec les gangs. Le syndicat policier a même évoqué l'usage de quotas. Donc, autrement dit, t'arrives pas à ton quota, t'arrêtes n'importe qui, puis t'arrives à ton quota. Alors, ces rafles correspondaient à la 5e phase, d'ailleurs, du plan de contrôle territorial. Pour justifier les rafles massives, les autorités ont décrit toutes les personnes arrêtées comme des membres de gangs méritant les mauvais traitements infligés. Mais des médias et des ONG, dont Human Rights Watch et l'ONG locale Christosal, qui a évoqué plus de 3000 plaintes en un an seulement. Donc, ces ONG et médias disent, ont documenté des arrestations sur la base simplement de l'âge, l'apparence, la résidence dans un quartier dominé par les gangs, une communication prise hors contexte dans un cellulaire, des délations anonymes, syndicalistes, défenseurs des droits, des secouristes, des étudiants ont été pris dans les mailles du large filet. Une étude préliminaire de Christosal suggérait que moins de 30% des détenus après un an d'état d'urgence étaient des membres de gangs. Très peu de détenus étaient en tout cas relâchés pour attendre leur procès par les juges. Ces juges soucieux de garder leur emploi après les purges judiciaires et aussi soucieux de ne pas être mentionnés comme collaborateurs des gangs par des publications en ligne par Bukele, hein, ce qu'il a déjà fait justement contre des juges. Une détention pré-procès de 6 mois était presque systématiquement déterminée contre les personnes qui avaient été interpellées. Des décisions qui visaient en fait parfois entre 50 et 500 personnes à la fois. Hein, donc dans ces grosses rafles-là, des dizaines de personnes à la fois qui étaient interpellées, présentées devant les juges, ce qui rendait la révision de documents, de preuves sur ces personnes-là impossible, ce qui faisait que justement ils perdaient pas leur temps avec ça. Hein, donc tout ce qui est due process, on faisait juste donner des détentions de pré-procès de 6 mois presque systématiquement à tout le monde. Et à peu près, en fait, aucune requête en habeas corpus, donc obligeant le gouvernement à prouver que la détention d'une personne était justifiée, a été résolue. Après un an d'état d'urgence, plus de 66 000 personnes avaient été arrêtées et seulement 4 300 relâchées. Après 2 ans, 75 000 personnes avaient été arrêtées et 7 000 relâchées, quoique ces personnes relâchées, c'était pour la plupart en attendant leur procès. Et donc, tout de même, voilà le résultat de 2 ans d'état d'urgence entre mars 2022 et aujourd'hui en 2024. C'est ça, 75 000 personnes. Avant l'état d'urgence, le taux d'incarcération au Salvador avait déjà dépassé celui des États-Unis en 2018 pour devenir le plus élevé au monde, avec 36 000 détenus, auxquels s'étaient ajoutés plus de 40 000 en à peine 3 mois avec l'état d'urgence. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes, la plupart arrêtées, encore une fois, arbitrairement et détenues sans accusation formelle, les enquêtes venant après les arrestations, se retrouvaient dans des conditions de détention surpeuplées et insalubres, puis mélangeait avec des membres de gang sans que nécessairement eux le soient. Et donc, le tout sans que leur famille ait la moindre information ou recours pour les faire relâcher ou obtenir réparation. Aussi, on peut mentionner que tôt durant l'état d'urgence, en juillet 2022, Bukele a ordonné la construction d'une nouvelle méga-prison à Tecoluca, nommée Centre de confinement pour terrorisme. Donc, selon les calculs du Financial Times, si le complexe accueillait donc tout le monde par rapport à la capacité prévue de 40 000 détenus, chacun de ces détenus-là aurait seulement 0,6 mètres carrés d'espace. Donc, essayez de vous imaginer, là, 0,6 mètres carrés d'espace, c'est moins de la moitié du minimum requis par l'Union européenne pour le transport de bétail moyen sur la route. Donc, lors de l'ouverture du complexe en février 2023, le gouvernement a produit des vidéos partagées par Bukele sur les réseaux sociaux, bien sûr, des premiers transferts de prisonniers dans la méga prison, montrés courant à moitié nu, puis entassés corps à corps dans des cellules. Vous avez sûrement vu ce genre d'image-là, hein, de prisonniers en Amérique centrale. Bukele se moquait, quant à lui, des critiques. Peut donner un bon exemple du ton populiste et de la mauvaise foi qui lui est assez habituel, là, je le cite. Quoi, vous dites que cette fichue dictature, là, il parle de lui, là, mais en satirisant. Quoi, vous dites que cette fichue dictature n'a pas donné de tuxedo aux prisonniers? Sans chaussures, nous allons tout de suite prendre l'argent des hôpitaux pour enfants pour leur acheter des chaussures. Quelle marque pensez-vous qu'ils aimeraient? Alors bon, voilà, vous constatez, là, je parlais de mauvaise foi ici. Il y a une différence, évidemment, avec des droits minimaux et leur donner un tuxedo, aussi une espèce de démagogie là en opposant les droits des enfants à avoir un système de santé fonctionnel et, encore une fois, des droits des détenus qui, encore une fois, pour beaucoup, étaient des gens arrêtés arbitrairement et qui, dans la vaste majorité des cas, selon les ONG, n'était pas membre de gang. Alors bon, quand même des discours de déshumanisation, hein, beaucoup dans cette guerre anti-gang au Salvador. Des analystes ont en tout cas mis en garde qu'un tel complexe carcéral avait le potentiel de renforcer une culture de criminalité pour les détenus qui seraient éventuellement relâchés après avoir purgé leur peine, mais qui auront passé dans cette espèce de grinder à détenus, mais qui donc se retrouvent en proche proximité avec tout ce monde des gangs, surtout qu'un programme en fait de réinsertion ou de formation a pas été mis en place dans ce complexe carcéral. Puis on peut mentionner que le complexe accueillait déjà plus de 12 000 détenus en automne. Alors un petit peu plus du quart de la capacité prévue. Par ailleurs, pas clair d'où provenait le financement pour la construction, hein, de cette méga prison, alors que la législature avait approuvé au début de l'état d'urgence un décret permettant au gouvernement de déroger le temps de l'état d'urgence, qui a toujours pas encore pris fin, donc permettait au gouvernement de déroger à la loi sur les acquisitions et contrats d'administration publique, qui requiert notamment la publication des contrats publics et l'évaluation des contracteurs. Sauf que là, le gouvernement, voilà, peut faire ce qu'il veut, dépenser comme il veut, avec donner des contrats à qui il veut, puis personne ne sait rien là-dessus. Maintenant, justement, sur ces conditions de détention, en ce qui concerne les décès en détention, le gouvernement Bukele n'a pas fourni d'informations et a refusé les requêtes judiciaires d'accès à l'information. Alors, on voit le pattern, là, depuis que je parle de l'administration Bukele, c'est un blocage total de la transparence. Puis, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, comme le Walla le mentionnait, c'est vraiment la classification d'informations qui normalement aurait été publique. Alors des médias et ONG colligeaient donc ces informations comme possible. Puis plusieurs, comme Amnesty International, ont rapporté un usage systématique de torture et Christosal a évoqué des blessures non soignées, reçues lors d'arrestations et tabassages en détention, comme étant une des sources des décès en détention. Les morts suspectes étaient presque toujours attribuées à un œdème aigu pulmonaire, c'est-à-dire une inondation des poumons. S'il s'agissait effectivement de morts suspectes liées au traitement des détenus, ben disons simplement que il manquait un petit peu de créativité là quand il falsifiait les rapports là. C'était tout le temps justement là, bon, cause naturelle, c'est quoi? C'est un œdème aigu pulmonaire. C'est louche, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. On parle en tout cas de quelques 330 personnes disparues et 190 décédées depuis le début de l'état d'urgence. Notons que le travail des médias et des ONG se faisait dans un climat de répression. Avant l'état d'urgence, Bukele et des agences gouvernementales bloquaient les journalistes et militants critiques sur leurs comptes de médias sociaux, ce qui est significatif parce que ces comptes de médias sociaux gouvernementaux et du président étaient largement utilisés pour annoncer des politiques publiques. Et aussi, bon, le Citizen Lab de l'Université de Toronto a indiqué que des dizaines de journalistes et militants ont été la cible du logiciel espion Pegasus, en particulier l'équipe du média El Faro, lors de la publication d'une enquête sur les négociations entre le gouvernement et les gangs. Mais bon, à partir de l'état d'urgence, en avril 2022, la législature a rendu punissable de 10 à 15 ans de prison, je cite, « la reproduction ou transmission à la population de messages ou propos émanant ou supposés émaner des groupes criminels susceptibles de générer l'inquiétude et la panique. » Donc, mesure causant de l'autocensure vivement dénoncée par l'Association des journalistes du Salvador et l'Association de la presse interaméricaine. Donc, les détracteurs de la loi faisant valoir que les journalistes utilisent souvent comme source des messages laissés par des membres présumés de gang ou des entrevues ou audios partagés sur les médias sociaux. Mais là, ça pouvait plus vraiment être utilisé. En tout cas, si tu voulais pas t'exposer à des poursuites criminelles qui pouvaient valoir voilà de 10 à 15 ans de prison pour les journalistes. Faut dire quand même que la loi a été abolie en novembre 2023 sans avoir provoqué d'arrestation. Mais l'effet est évident là sur le potentiel là, d'autocensure pour les journalistes. Aussi, on peut mentionner qu'en 2022, 182 incidents ont visé des défenseurs des droits et des journalistes. Donc, ça a été documenté. Puis, en avril 2023, le média d'investigation El Faro, que j'ai déjà mentionné souvent, a annoncé son exil au Costa Rica face à l'intimidation. Alors, c'est pour dire. Le gouvernement a par ailleurs mis sur pied une armée de faux comptes sur les médias sociaux, connus sous le nom de trolls, pour harceler les détracteurs et répandre de la désinformation. Oscar Picardo, directeur des enquêtes à l'Université Francisco Gavidia au Salvador, explique qu'une industrie entière d'influenceurs s'accrochant à l'image du président a aussi vu le jour. Donc, les politiques anti-gang faisant d'ailleurs beaucoup d'adeptes en Amérique latine, même jusque dans les gouvernements qui commencent à s'inspirer des politiques de Bukele, en particulier, par exemple, au Honduras. Mais c'est aussi là, à travers cette influence des médias sociaux, l'image de Bukele a vraiment été moussée en Amérique latine parmi les électorats. Une étude menée par l'université Francisco Gavidia et le média local Factum, examinant 69 comptes YouTube pro-Bukele, a révélé que plusieurs de ces comptes YouTube pro-Bukele peuvent gagner des dizaines de milliers de dollars par mois grâce aux vues et abonnés. Donc, les comptes en question produisant ensemble des dizaines d'heures de contenu par jour, reprenant presque toujours le langage du gouvernement et contenant à 90% des informations fausses ou trompeuses. Des courroies de transmission, tout ça pour dire pour la rhétorique gouvernementale à travers les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui souvent c'est des manières de contourner le gouvernement, d'avoir une source alternative d'information, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne d'une manière un petit peu différente. Je vais, après une petite pause musicale, revenir pour un dernier segment concernant le mandat de Nayib Bukele au Salvador depuis 2019, notamment justement là avec quand même des résultats qui se sont avérés, malgré toutes ces problématiques au niveau des droits humains, qui s'est avéré assez efficace contre les gangs. Je reviens là-dessus sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute d'À l'horizon.